Tu me refieres? Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippour ont un nom qui figure dans la Torah. Rosh Hashanah ne figure pas dans la Torah. Il n'y a pas dans la Torah dans les Moadim, Rosh Hashanah. Les mois, vous vous souvenez que les Bnei Israël, ils ont reçu un deuxième calendrier. Avant de sortir d'Égypte, ils ont reçu un calendrier qui commençait au printemps. Tout en gardant l'ancien calendrier qui lui commence en automne, ils ont un calendrier qui commence au mois de Nissan. Les mois dans la Torah, ils n'ont pas de nom. Mois sont, ils portent des numéros. Ils sont numérotés à partir de celui qui a été présenté comme étant le premier mois, au moment où on a reçu ce fameux calendrier. Donc le premier mois, c'est Nissan. Et il y a un mois, je porte le chiffre 7, et c'est le mois de Tichri. Et donc, comme tout le monde sait, dans ce mois de Tichri, il va y avoir Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire qu'on a cette situation un peu paradoxale que Rosh Hashanah, ça tombe le septième mois. Alors, dans la Torah, dans la liste, dans Parshat Emor, c'est la paracha dans laquelle il y a les moadim qui sont présentés. Donc on a présenté Pessah, Shavuot. Et puis ensuite, c'est marqué à la cinquième montée, en Hamishim. C'est le passouk, bon, 23-24. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Donc Hashem parle à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu répercute cet enseignement. Et Hashem lui dit, Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël, les morts en disant cela. Tu leur dis, Bachodesh HaShvi'i, le septième mois, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Yé lachem Shabbaton. Vous aurez un jour chômé. Shabbaton. Sur ce mot-là, donc jusque-là, Shabbaton, on connaît, c'est comme Shabbat, c'est pour Yom Tov, c'était vrai pour Pessah, pour Shavuot aussi. Mais celui-là, il a un nom. Ce jour-là, il sera Zichron Troua. Littéralement, ça veut dire souvenir de Troua. Zichron, c'est un mot connu, Zicharon. Troua, ce n'est pas un mot connu. On ne sait pas ce que ça veut dire dans le texte, Zichron Troua. Curieusement, par exemple, eux, dans la traduction du Stone, là, il dit un souvenir par la sonnerie du chauffard. Bon, mais quand c'est écrit dans la Torah, ou Tkatem, c'est aussi un chauffard, ou sonnerie du chauffard, et c'est une Tkia, c'est aussi une sonnerie du chauffard. Donc, tu ne rends pas compte en traduisant Troua par sonnerie de chauffard, tu ne rends pas compte de quelle sonnerie il s'agit. Tu dis, voilà, ce qu'on sait, c'est que la sonnerie en question, ce sera un souvenir d'une sonnerie faite avec un chauffard. Bon, on ne sait pas encore ce que c'est qu'un chauffard. Alors, le mot sonnerie de chauffard, du chauffard sonner, quand est-ce qu'on a expérimenté ça dans l'histoire juive? On l'a expérimenté au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y avait cet énorme son et lumière là. Parmi les sons, il y avait des sonneries de chauffard. Donc, quelque part, la sonnerie de chauffard, c'est une sonnerie de chauffard qui est présentée comme une sonnerie qui accompagne le dévoilement, la révélation, le Sinaï. Par la suite, il va y avoir quand on va parler des korbanot, les korbanot, on va devoir les envelopper en quelque sorte dans de la simcha. Et pour manifester la simcha, il y aura des sonneries de trompettes, fameuses trompettes en argent que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de fabriquer, et en même temps aussi des sonneries de shofar. Il y aura toujours un jeu en quelque sorte entre le shofar et la trompette, c'est-à-dire toujours lequel continue au-delà de l'autre. Ils sonnent ensemble. Mais il y en a un qui continue plus longtemps. Dans certaines circonstances, c'est le chauffard. Dans d'autres circonstances, c'est la trompette qui sonne. Non. Je ne sais pas dire grand-chose là-dessus. D'abord, je ne connais pas grand-chose en musique. Je ne connais pas grand-chose, c'est un abus de langage, je n'y connais rien. Et bon, je ne sais pas ce que ça veut dire de prolonger. Hein, si vous connaissez quelque chose en musique. Prolonger l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer. Il faudra expliquer. Alors, bon, il y a une chose qui est facile, si vous voulez, c'est que, bon, on peut anticiper déjà et dire que le chauffard, c'est une corne. Et donc, quand tu sonnes dans la corne en question, c'est une corne qui, elle a bien été travaillée pour lui donner une certaine forme, mais il n'y a pas de touche, il n'y a pas. Dans une trompette, la trompette, c'est un truc fait par les hommes. Et bon, ça n'a rien de naturel. Le chauffard, à la limite, c'est une corne naturelle qu'on a un petit peu élargie, un peu grattée, un peu tordue, etc. Mais la trompette, c'est quelque chose de complètement artificiel, si on veut. C'est inventé. Et donc, c'est sûr qu'il y a un jeu entre le naturel et l'artificiel créé par l'homme. Ben, c'est sûr. Parce qu'il faut. Mais ça, c'est élémentaire. Je ne sais pas dans quelle mesure ça rend compte de quoi que ce soit dans la Simcha. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un jeu? Il faut les deux, mais il y en a un qui doit gagner. Donc, il faudrait prendre les korbanot et regarder exactement quand. Est-ce que c'est le chauffard qui continue même quand la trompette a cessé et quand c'est le contraire? Est-ce que c'est dans une hola, dans des shlamim? Est-ce que c'est dans des fêtes, dans des nedavot, dans des nedarim, etc.? C'est un travail que je n'ai pas fait. Je sais pas faire.
Et le fait qu'elles soient ensemble, déjà, pourquoi il y a ensemble le chauffard et la trompette?
Oui, alors bon, on comprend que l'être humain, c'est quelqu'un qui. On a un côté qui est la nature elle-même, et puis il y a ce que nous construisons.
En fait, pour là, quand vous parlez de l'originel, au moment de Sinaï, c'est aussi l'alliance. Donc peut-être que la trompette, c'est
N'y a pas de
aussi.
trompette. Au Sinaï, il n'y a pas de trompette. À ma connaissance, il n'y a pas de trompette. C'est quand on amène les korbanot qu'il y a les trompettes. C'est nous qui amenons des trompettes dans le cadre de la simcha qui entoure l'approche des korbanot. À ma connaissance, il n'y a pas de trompette au Sinaï. Par contre, il y a du chauffard.
Mais la trompette, elle est là pour rappeler le chauffard.
Et là, je ne sais pas. La trompette ont par exemple des fonctions de signal de départ, etc., ou d'arrivée, enfin d'arrêt dans les tribulations des Bnei Israël, quand est-ce qu'on part, quand est-ce Quand est-ce qu'on bouge comme ça? Quand est-ce qu'on s'arrête? Par exemple, il y a des sonneries qui indiquent le Shabbat. Quand on sonne pour annoncer aux gens que ça va être Shabbat, on sonne un peu avant, puis après on sonne. Alors, qu'est-ce qu'on sonne? On sonne de la trompette, on sonne du shofar. Que les deux, est-ce qu'un seul, et pourquoi celui-ci, et pourquoi pas celui-là? Donc tout ça, c'est, bon, si vous avez envie, un jour on peut travailler là-dessus, mais bon, je ne sais pas si je saurais dire grand-chose. Il faut amener quelqu'un, un musicologue ou quelqu'un qui connaît quelque chose dans la musique, parce que sinon on risque d'être un peu short. Mais, ah, un instant, qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, d'accord.
Et Cannes.
Bon, alors, c'est Yom Zichron Troa, souvenir d'une Troa. On parle souvenir, on se pose obligatoirement la question, souvenir de quoi? Le souvenir d'une Troa, est-ce que c'est le souvenir de la Troa du Sinaï? Ou c'est le souvenir d'une autre Troa? Il y aura, ça on sait, qu'il va y avoir en tout cas les sonneries de shofar à la fin des temps. Quand on dit Tka be shofar gadol, on parle de la fin des temps. C'est une façon d'exprimer, on voudrait Mashiach, quoi, et la fin des temps. Ça, demande Hachem, sonne le grand shofar. Donc, oui, alors ça, c'est important. Évidemment, dans le shofar qu'on a expérimenté jusque-là, c'est un shofar sonné par Hachem. Par Hachem ou par les malachim de service, ou je sais pas quoi, mais ce n'est pas un shofar sonné par les hommes. Donc, il y aura un souvenir de Troa, Mikra Kodesh, sainte convocation. Donc, c'est Mikra Kodesh, c'est Yom Tov. Et pour le reste, c'est marqué comme le Chet Avodah Lo Ta'asu, vous ne travaillerez pas. Vikraftem Ishe El Hashem. Et vous amènerez des korbanot pour Hashem. C'est tout ce qu'il y a sur Rosh Hashanah. Et dans Parashat Pinchas, où on reprend là aussi, il n'y a pas grand-chose de plus, seulement c'est marqué là-bas que c'est Yom Troa. Ici, ce n'est pas marqué Yom Troa, c'est marqué, d'accord, c'est Shabbaton Zichron Troa. Donc il y a Yom Troa et il y a Zichron Troa. Alors, ça vient, tu. Alors, bon, on a dit sur le Zikaron, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, quoi, à quoi ça fait référence. Alors évidemment, le mot quoi, il pose problème parce qu'on veut bien savoir ce que ça veut dire. Et donc on regarde ailleurs dans la Torah où on trouve le mot quoi, ben, on le regarde et on cherche, on ne trouve pas. Et dans le Tanakh, on cherche, on ne trouve pas. On trouve une occurrence qui ressemble un peu. Mais qui est une occurrence qui a lieu dans des circonstances tout à fait étranges. Disons, on ne voit pas très bien ce qu'on peut en faire. Vous connaissez probablement l'histoire. Il y avait à un moment donné dans l'histoire du clan Israël, il y a eu un général Goy, qui s'appelait Sisra. C'était un général qui gagnait toutes les batailles. Et là, je crois que ce général, il devait habiter chez sa mère. Enfin, bon, comment se fait-il qu'il devait habiter chez sa mère? Bon. Enfin, et quand il revenait, toujours, il était reçu par sa mère, il se réjouissait de voir son fils triomphant. Et la Torah nous dit que, nous, enfin le Tanakh, les Nevi'im disent, voilà, un jour, sa mère l'attendait. Ben voilà, il n'arrive pas. Bon, il n'arrive pas. Bon, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Et petit à petit, sa mère comprendra qu'il ne reviendra jamais. Vous savez pourquoi il n'est pas revenu? Il n'est pas revenu parce que Donc, il avait fait la guerre. Il était un peu épuisé. Il a passé vers une tante et il y avait là-bas une femme. Donc, il a pensé qu'évidemment, il pouvait. Il avait les prérogatives du grand guerrier, donc avoir un rapport avec elle. Et cette femme, elle a eu des rapports avec lui. Bon, c'est présenté comme une force de la nature, et nombre incalculable de, enfin pas incalculable, mais un très grand nombre de rapports avec elle. Après, il était épuisé. Et cette femme-là, elle a pris un pieu de sa tante. Et elle a tué Sisra. Elle lui a planté le pieu dans la tempe. Et il est mort. Et cette femme, elle a un nom qui est devenu un nom très connu. Cette femme s'appelait Yaël. Et cette femme, Yaël, n'était même pas juive, en fait. Elle était mariée avec un Kini. Kini, c'est le peuple de Yitro. Yitro, quand il n'a pas voulu rester avec Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut que je retourne vers mon peuple pour les convertir, en quelque sorte. Et ces Kinim étaient, en fait, les voisins d'Amalek. Et comme on avait de bonnes relations avec ces Kinim, on leur a dit, attention, on va attaquer Amalek, mettez-vous de côté, parce que sinon, il y a des balles perdues qui pourraient vous atteindre. Donc, elle n'était pas juive, mais on apprend d'elle une halakha très importante. On apprend qu'une femme, même quand elle fait la guerre, elle n'utilise pas des armes. Elle n'a pas appris un sabre pour lui couper la tête. Elle a pris un pieu de la tente. De là, on apprend que les femmes ne doivent pas porter des armes. Et à elle, on apprend que les femmes ne doivent pas porter des armes. Donc, ce Sisra, il n'est pas venu. Et sa mère, quand elle a compris qu'il ne venait pas, elle s'est mise à pleurer. Une mère qui pleure la mort de son enfant. Pour nous, c'est pas plus, mais là, c'est son enfant. Et là, dans la description des sanglots de la mère, il y a un mot qui ressemble beaucoup à toi. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Et donc, on a compris qu'il s'agissait de sanglots. C'est-à-dire qu'en fait, la sonnerie en question, ce n'est pas des sanglots, mais elle a quelque chose à voir avec les sanglots. Alors, ça n'a probablement rien à voir avec la tristesse, mais elle a à voir avec le fait que dans les sanglots, il y a deux sortes de sanglots. Il y a une sorte de sanglot dont les Français parlent beaucoup, parce que le camarade Verlaine en a parlé. Il y a les sanglots longs. Et chez les Bnei Israël, il y a aussi des sanglots courts. Les sanglots longs, c'est des sanglots du genre. Et les sanglots courts, c'est des sanglots du genre. Et nous ne savons pas finalement de quel type de sanglot il faut s'inspirer pour sonner la Troua. Parce qu'on a compris que de ce Zichron Troua, nous, on va faire une mitzvah de sonner du shofar. Zichron Troua. Alors, ça va nous servir, Zichron Troua, ça va nous servir pour dire que même quand on ne sonnera pas du shofar, néanmoins, on aura à voir avec, on va parler du shofar. Je vais tout de suite expliquer. Et donc, comme on ne sait pas, ben on fait les deux. On ne fait pas seulement les deux, on fait les combinaisons possibles. Alors, je vais faire vite. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est, alors on fait les deux. C'est-à-dire, comme toi, on va faire les sanglots longs. Chez nous, ça va s'appeler shvarim. C'est-à-dire, on va sonner tu, 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 trois fois, trois coups. C'est shvarim. Puis on va aussi faire la sonnerie des sanglots courts. Puis on va faire la composition. Les sanglots, des fois, ils commencent par des sanglots longs et ça s'éteint en quelque sorte avec des sanglots courts. Donc l'autre s'appelle Troua. Et puis on va faire Shvarim Troua. Shvarim, publié de Troua. Avec deux versions. Une version dans laquelle on respire entre Shvarim et Troua. Une version dans laquelle on ne respire pas. C'est-à-dire on fait tu. C'est une fois. Et on fait aussi. Sans respirer. On ne fait pas la combinaison sanglot court suivi de sanglot long parce que personne ne pleure comme ça. OK? Donc ça, c'est la 3. Alors la vérité, c'est que concrètement, après, comme vous savez bien, cette trois, on va l'envelopper. On va faire avant la trois et après la trois, on va faire une enveloppe du même bois que le cœur. On appelle ça une kia. Une kia. Donc on va faire avant ce que je vous ai dit là, on va faire tu. Et après, on va faire emballer. D'accord? Avec ça, vous avez tout le scénario pour Rosh Hashanah. Donc, ça, c'est la trois. Alors maintenant, ça, on a compris que la trois, ça se fait avec une corne. Bon, il faut sonner avec une corne. Alors, des animaux à cornes, il y en a pas mal. Donc, on peut avoir des cornes de tous ordres, toutes sortes, à partir de n'importe quel animal. Alors, dans la Gemara, on discute quant à la cacheroute des différentes cornes. Alors, d'abord, on veut que la corne soit un truc qui glisse sur quelque chose de. C'est pas qu'on va couper quelque chose qui est d'un seul tenant. On peut détacher une corne dans laquelle il y a la partie qui est l'os en quelque sorte, et il y a quelque chose qui vient par-dessus, qui pousse en même temps, mais qui est comme la peau d'un fruit ou un truc comme ça. Donc on va creuser pour enlever la partie intérieure. Quand on va couper, on va creuser pour enlever la partie intérieure. Et ensuite, on va un peu arranger un peu la forme du chauffard en question. Parce que s'il s'était complètement droit, il n'y aurait pas beaucoup de son qui allait sortir. Il faut bien fabriquer quelque chose qui va aider la production du son. Et dans la Gemara, on arrive à la conclusion que toutes les cornes sont pas saoules. Aucune corne n'est accessible, n'est acceptable, sauf une corne de bélier. Et donc le chauffard, c'est une corne de bélier. Alors, le pourquoi de la chose, pourquoi la corne de bélier? Voilà, Harvey, il avait vendu la mèche, donc il affiche complètement mon truc par terre. La corne de bélier, elle est évidemment réminiscente d'un ferme. C'est la corne d'un certain bélier. Un bélier dans l'histoire. Des béliers, on en a fait, des corbanotes de béliers, on a tué beaucoup, beaucoup de béliers dans les corbanotes. Mais ce corban bélier, ce bélier-là, ça, c'est un bélier spécial. Et alors, pour ça, il faut remonter dans l'histoire juive, presque au tout début de l'histoire juive. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu a fait une alliance avec Abraham Avinu. Une alliance dans laquelle il lui a promis la terre, etc. Il a promis qu'il allait s'occuper de la descendance d'Abraham, etc. Après, Abraham, il a eu des problèmes avec les gens autour. À un moment donné, il a eu des problèmes avec Avimelech. Avimelech, c'était le roi des Plishtim. Avimelech, c'est un nom comme Paro, c'est-à-dire, c'était pas son nom. Tous les rois de ces Plishtim s'appelaient Avimelech. Avimelech, ça veut dire mon père est roi. Oui, Avimelech. Et finalement, ils se sont rabibochés, Abraham et Abimelech, et ils ont fait une alliance. Et Abraham a fait donc avec Abimelech un brit. L'alliance, ça se dit brit. Beaucoup, il n'a pas beaucoup aimé ce brit d'Abraham avec Abimelech, parce que moi, je dirais, parce que le mot qui est utilisé pour cette alliance Avimelech, c'est le même mot qui est utilisé pour l'alliance avec Hachem. Ça s'appelle Brit. Et donc Hachem, il a quelque part dit à Abraham, quoi, tu as fait une alliance avec Avimelech, que d'une certaine manière, tu mets sur le même plan que l'alliance avec moi. Et donc, après, c'est marqué, Vahi Acharei Hadvarim Ha'ele. La paracha de la ligature de Israël, elle commence comme ça. Et ce fut après ces paroles. Les paroles, c'est d'appeler Brit, l'alliance, avec Avimelech, en utilisant le même mot. Bon, c'est l'idée de. Bon, on ne peut pas faire. Et il faut comprendre un peu de quoi il s'agit. On pourrait dire, il n'y a pas photo, qu'on entend Abraham. C'est pas qu'Abraham, il a pensé un seul instant que l'alliance avec Abimelech était du même ordre que l'alliance avec Hachem. On n'a pas affaire à des crétins. Je veux dire, mais il y a quelque chose de très important. Par exemple, quand on parle de Yirat Shamayim, on parle de la crainte du ciel, la crainte d'Hachem. Qu'est-ce qui, en quelque sorte, invaliderait la crainte d'Hachem? C'est de craindre aussi quelque chose d'autre. Tu crains Hachem et quelque chose d'autre, que ce soit, je ne sais pas moi, le percepteur ou le flic ou le voisin ou le terroriste ou tout ceci. Craindre quoi que ce soit. Ça montre que tu crains pas vraiment Hachem. Parce que craindre Hachem, c'est craindre celui qui a tout en main. Si je crains Hachem, ça veut dire j'ai compris que tout dépend uniquement, vraiment uniquement d'Hachem. Donc si ça dépend uniquement d'Hachem, je n'ai pas à craindre. Je peux peut-être prendre des mesures, etc. Mais je n'ai pas à craindre. Et donc faire un brit avec quelqu'un, avec avec quelqu'un, avec une idole ou avec ce que vous voulez, c'est ne pas comprendre ce que c'est qu'un brit avec Hachem. Donc, pour rattraper le coup, en fait, Hachem a dit à Avraham Avinu, ça n'est plus rattrapable que si tu me donnes tout. Tu me donnes tout, alors tu retombes sur tes pieds, quoi. C'est ça. Tu vas montrer que tu me crains vraiment, moi. C'est ça que, après toute l'histoire, Hachem a dit, maintenant je sais que tu me crains. Comme si Hachem savait bien qu'Abraham le craignait, mais il fallait que ça soit manifeste. Alors il a dit, tu me donnes tout. C'est-à-dire, tu me donnes tout ton futur. Bon, il sera. Il y a toute une discussion sur laquelle on ne va pas venir maintenant, mais Avraham Avinu, Hachem, quand il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, tu prends ton fils, ton unique, ton aimé, etc. Il y a toute une liste de qualificatif de ce fils. Parce que Avraham Avinu, dans chaque fois qu'Hachem lui dit quelque chose, il dit, oui, mais j'ai pas qu'un seul fils, j'ai Ishmaël et Yitzhak aussi. Jusqu'à ce qu'Hachem le coince complètement et que finalement on arrive sur Yitzhak. Et donc, il lui dit, tu vas me donner Yitzhak. OK? Alors, il y a un midrash. Pourrait être par amour. C'est la même chose. L'amour pour, par exemple, pour l'amour ou la crainte d'Hachem, c'est un peu la même chose. Hachem, aimer Hachem. Là aussi, aimer Hachem est autre chose, ça ne marche pas non plus.
Mais dans la crainte, il y a la contrainte.
Non, pas obligatoirement.
Dans la crainte, il y a la peur, quand même.
Il y a peut-être de la peur, oui. Il y a la peur de la dimension de
À
peur qui
l'époque
n'existe
de.
pas dans la. Là, c'est la peur. Ça veut dire tu me crains vraiment. Ça veut dire que le rapport de l'homme avec Hachem, c'est un rapport de Yirat Shamayim. Avat Hachem, c'est déjà beaucoup plus éthéré, beaucoup plus. Le problème, c'est Yirat Shamayim. Il y a un Midrash. Le Midrash, il est. Il est dans Parshat Emor. C'est le Midrash sur la. Sur. Les quelques mots que je vous ai lus de la Torah concernant ce fameux premier jour du septième mois. Alors, la phrase, c'était Bachodesh HaShvi'i Be'echad LaChodesh. Alors, le Midrash, il va pas expliquer toute la phrase. Mais il va prendre les deux premiers mots. Bachodesh HaShevi'i. Et c'est clair que le Midrash, il se pose la question, pourquoi le septième? Est-ce qu'il a le septième? Alors, il y a un Midrash sur lequel on ne va pas parler maintenant, mais tout un Midrash, tout un paragraphe du même Midrash, dans ce même chapitre du Midrash, qui parle du chiffre 7, dans toutes les circonstances. On ne va pas parler de ça maintenant, mais vous allez voir une autre lecture du chiffre de ce chevilly. D'abord, Acher, la Chodesh Rav Berechia Haya, Karile Yarcha de Shvuata. Rav Berechia, ce mois de ce septième mois, il l'appelait le mois du serment. Une choix, un serment. Vous avez bien compris c'est pas tombé comme ça. Chevi-i, boua, c'est les mêmes lettres. Shin, bet, aïn, pour faire chevi, et shin, bet, aïn, pour faire chevoi. Bon, ça veut dire que lui, il a entendu, il faut pas prendre chevi comme. Regarde la racine, qui est peut-être pas la racine grammaticale, mais enfin, c'est les trois lettres de la racine de chevi qui sont aussi les trois lettres de la racine de chevoi. Donc, c'est un mois, il n'est pas septième. C'est le mois de serment, un serment. OK, c'est clair? Quel serment on parle? Alors il dit, Shebo nishba kadosh baruchu le Avraham avinu alav shalom. C'est dans ce mois-là, alors ça je ne sais pas d'où il le sait, qu'Akadosh Baruch Hu a juré à Avraham Avinu, il lui a juré quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ada ou dirtiv? D'où est-ce qu'on sait que Hachem a juré? Ben à cause du verset. Après la Akedah, après que dans le verset 11 du chapitre 22 de Bereshit, dans le verset 10, c'est marqué Avraham, je vous lis en français. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Un ange d'Hachem l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Abraham a dit, Hineni, me voici. Il a, me voici, ça veut toujours dire, je suis prêt à tout. Le Hineni, c'est un drôle de construction. Hine, quand on dit Hine, c'est voici, voici quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est pas voici un livre. Non, c'est voilà, c'est un livre. Mais voici, ça a une connotation de on s'y attendait pas vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Alors, Hineni, c'est-à-dire je suis prêt à tout. Je ne sais pas ce que tu me veux, mais je suis prêt. Hineni. Quand Yitzhak va, quand ils sont en chemin et que Yitzhak demande à son, il appelle son père à vie. Et Abraham répond, Hineni, c'est là. C'est même étonnant, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout parce que je vais devoir t'expliquer qu'Hachem irait le assez, que c'est Hachem qui choisira l'agneau, question. Bon, puisqu'il demande, Yitzhak, qui dit, mais on a tout. On a le feu, on a le bois, on a la couteau. Mais il manque l'agneau. Abraham lui répond, Hachem irait lo assez béni. Hachem choisira l'agneau, mon fils. Donc, selon que vous mettez une virgule après mon fils, après l'agneau, vous avez autre chose. Ou bien c'est mon fils, parce que il parle comme mon sfarad, quoi, mon fils. Eh bien non, Hachem va voir qui est l'agneau, c'est mon fils. L'agneau, ce sera mon fils. Abraham est en train de lui dire une chose pareille. C'est pour ça qu'il dit, Neni, je suis prêt à tout. Donc là, il est en train de le faire l'impensable, et l'ange lui l'appelle, il dit, je suis prêt. Alors l'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu es un homme craignant Hachem. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, comme vous savez, Abraham, à ce moment-là, il négocie. Il dit, mais j'ai fait tout ce travail, quand même passer à l'acte, quoi. Il dit, je voudrais faire juste une petite entaille pour avoir fait quelque chose. Je veux dire, je ne dis rien, touche pas. Abraham leva les yeux et vit, et voici un bélier. Il est un bélier. Ensuite, empêtré dans les broussailles par ses cornes, il y a un bélier. Hazal dit que ce bélier-là, il est là depuis avant la création du monde. Depuis, en tout cas, avant la création de l'homme. Il est pris dans le fourré, dans les fourrés. Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham Avinu, il invente ici un corban de substitution. Des corbanotes, il y en a eu jusque-là. Adam a fait un corban, Caïn, Hevel, il s'est fait des offrandes. Abraham, il invente un truc. Un corban qui est substitution. Il se substitue à son fils. La substitution, elle est très forte. On dit que, c'est un Chazal qui dit que quand on a voulu reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, on ne savait pas où était le Mizbeach. Comme vous vous souvenez, avait rasé complètement Jérusalem, etc., et l'esplanade du Beth Amikdash. Et donc, on voulait, si tu veux construire le. Il faut savoir où est le Mizbeach, où est le vrai Mizbeach. Donc, ils ne savaient pas où c'était, ils ont cherché, et on a trouvé une urne contenant des cendres. Et sur l'urne en question, il était écrit, c'était l'urne des cendres de Yitzhak. Il n'y a pas de cendres de Yitzhak, mais. C'est ça la substitution. Le bélier, il a été apporté en holocauste, c'est-à-dire on l'a complètement. Holocauste, c'est le corban a brûlé complètement, n'est-ce pas? Hola, ça monte entièrement. Et il y a les cendres pour dire que voilà, le bélier en quelque sorte, il est le substitut. Et cette notion de substitut, d'un corban substitut, va être beaucoup utilisée. Le Ramban va expliquer que quand nous devons apporter un corban, on doit considérer que ce qui arrive au corban devrait m'arriver à moi. Seulement Hachem, il n'accepte pas les sacrifices humains. Alors, on peut pas dire à cause de la SPA, mais on a substitué un animal au corps humain et on tue un animal à la place du corps humain. Mais pour bien faire les choses, il faudrait qu'on arrive à se projeter et s'imaginer que voilà. Et donc, voilà que il a substitué ce fameux bélier. Et donc, Abraham, il a appelé cet endroit Hachem Yireh, disant ce jour sur la montagne, Hachem sera vu. Et l'ange d'Hachem appela Abraham une deuxième fois du ciel et il dit. Alors, c'est ça qu'il dit, c'est ça le. Bi nishbati neum Hachem. Ils ont traduit par moi-même, je jure, parole d'Hachem, que puisque tu as fait cette chose-là et n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai assurément, j'accroîtrai grandement ta descendance, comme les étoiles des cieux et comme le sable du bord de la mer. Ta descendance héritera de la porte de ses ennemis, et tous les peuples de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Donc, ce texte-là, il commence, Bi nishbati. Neum Hashem. Bi nishbati. Nishbati, ça veut dire j'ai juré. Et bi, ça veut dire en moi. Eux, ils ont traduit en disant par moi-même, je jure. Qu'est-ce que c'est que ce bi nishbati? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est une shvoa? Une shvoa, dire je jure, ça. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas un serment pour nous. Un serment, c'est toujours une phrase dans laquelle on prend Hachem à témoin de ce qu'on dit. Et en quelque sorte, de prendre Hachem à témoin de ce qu'on dit, c'est fait pour donner du poids à la parole. Quelqu'un doit jurer, un dit c'est comme si, l'autre dit comme ça. La Torah elle dit, tu jures, c'est comme tu dis toi. Il faut, c'est une parole contre une parole. Donc il faut donner du poids à ta parole pour qu'elle soit plus lourde, plus puissante que la parole de l'autre. Et c'est ça la Shvoa. Et donc quand Hachem dit Bi Nishbati, je jure, mais lui aussi il doit mettre Hachem dans le. Donc c'est une expression qui tient compte de la. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? C'est toujours un serment en Hachem, avec Hachem. Donc même Hachem, il est obligé de dire Bi. Nishbati, Bi. D'accord? Par Hachem, par moi-même en quelque sorte, je jure. Bon, il y a évidemment d'autres explications sur ce bi, mais il me semble que l'explication standard, c'est comme ça. C'est la forme d'une choua. Une choua, c'est toujours Bachel. Donc il a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Alors le Radak, sur le Passouk, le Radak, c'est un Rishon. Très ancien, David Kimchi, il dit, de même que je suis éternel, comme ça qu'il dit, lui il a compris, par moi-même je jure. Ça veut dire, je jure en utilisant quelque chose de spécifique qui me concerne, je suis éternel, alors ce que je dis sera éternel aussi. Bon, c'est une façon de dire. Ce que je suis en train de dire, mon serment sera éternel. Le Ramban, c'est le deuxième grand commentateur de la Torah, Rashi. Le Ramban dit, Hachem avait déjà promis à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles et la poussière de la terre. À présent, il promet à Abraham qu'elle triomphera de ses ennemis, Char Oivav, même si, alors c'est ça qui est étonnant, même si elle commet, le elle en quelque sorte, c'est la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? C'est le clan Israël. Même si le clan Israël commet de graves fautes, elle ne sera jamais complètement anéantie, ni ne tombera définitivement entre les mains de ses ennemis. Donc, l'Amman dit, c'est une promesse solennelle de la rédemption ultime du clan d'Israël. Bon, alors, en soi, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce qu'Abraham demande? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'Hachem fasse en faveur des Bnei Israël un déni de justice. Les Bnei Israël font des fautes. Ces fautes, normalement, elles devraient leur valoir au clan d'Israël la destruction. Hachem s'engage, je ne les détruirai pas. C'est une chose. Il y a une autre chose qui est que c'est un peu étonnant parce que Abraham Avinu, il a l'air de demander bien plus que ce qu'Hachem avait dit qu'il allait donner. Hachem a dit, il a dit à Abraham, il a garanti à Abraham que, ultimement, le clan d'Israël ne sera jamais détruit. Ultimement. Mais il n'a rien dit sur les individus, par exemple. Alors, est-ce que ce qu'Abraham demande, c'est concerne les individus? Ça, c'est un peu grossier, j'ai l'impression, c'est trop. J'ai tendance à penser que ce qu'il demande, c'est aussi pour le clan d'Israël. Seulement, il demande plus. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que ce ne soit pas seulement à la fin des temps qu'il va rester les Juifs. mais que ça soit vrai pour toutes les générations. Que chaque année, même si en fait le clan d'Israël mériterait d'être détruit, quasiment détruit, mais que on veut détruire cette génération. Quand Hachem a détruit la génération, enfin, ceux qui sont sortis de Mitzrayim, qui ont passé la mer, qui ont reçu la Torah, les hommes, ils sont morts, tous morts, sauf deux, hein, à cause des Meraglim, dans l'histoire des. Hachem avait. C'est quoi ça? Hachem a dit. D'où elle vient cette peine de mort? Du clan d'Israël, quasiment. Elle vient de ce que les Israël ont fait le veau d'or. Et quand ils ont fait le veau d'or, Hachem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire. Une parole d'Hachem, ça ne revient pas en arrière. Donc Hachem, on peut considérer que la parole d'Hachem s'accomplit par la quasi-destruction des hommes du clan d'Israël. Les femmes ne sont pas mortes. Hein. Mais les hommes, tous les hommes qui sont sortis d'Égypte, qui ont passé la mer, qui ont vécu le Sinaï, etc., ces gens-là, la trace. À part Yoshua et Caleb. Extraordinaire. Ça s'appelle la destruction du clan d'Israël. Donc ici, on peut dire que ce qu'Abraham Avinu nous demande ici, c'est que dans chaque génération, même si en fait la génération elle devrait disparaître, donc quasi disparaître, parce qu'il faut bien assurer que les femmes enceintes vont survivre et donc ça va assurer la suite du clan d'Israël. Bon, mais toutes ces générations elles pourraient être détruites parce que on s'est disqualifié complètement. Donc là, à ce titre-là, c'est ça qu'il demande. Il demande que ce qui a été dit pour la fin des temps soit vrai dans le présent. Mais ça ne parle pas des individus. Il peut y avoir des individus qui vont être détruits complètement.
Non,
Non, ils n'ont pas erré 40 ans. Ils ont erré 40 ans, le temps qu'ils meurent tous.
oui, mais vous avez relié ça après avec
Le veau
le
d'or.
vote.
Parce que c'est le veau d'or. Parce que le Gaon, il explique que Hachem a dit, je vais détruire le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu a discuté, il a obtenu qu'Hachem ne détruise pas le clan d'Israël. Mais le Gaon dit, c'est seulement un sursis. Et avec les miracles, le sourcil est tombé, et c'est pour ça qu'il meurt.
Et dans quelle phase vous comprenez que la réponse d'Abraham demande à Hachem qu'il ait non pas une survie d'Israël à la fin des temps, mais
Pas seulement
dans quelle
ça.
phase et par rapport à quel mot vous voyez ça dans.
Non, lui, il demande, il dit, ah, mais je n'ai pas fini à vous, excusez-moi, je n'ai pas fini de lire le Midrash. Alors je finis le Midrash. Rav Beba, Barabba, Beshem Rabbi Yochanan Amar, Amad Avraham Avinu, Betfila Uvtachnunim, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Avraham était en prière et en supplication devant Hachem. Où, quand, comment? Quand est-ce qu'Abraham a supplié? Ça a l'air, lui, il le lit, que la prière et la supplication, c'est après la Akedah. Il y a une halakha qui est que quand Hachem donne, il faut dire encore. Je fais une fois un shiur, on se Shabbat sur encore. C'est vrai qu'on dit aux petits-enfants, quand on leur donne, ils ne doivent pas tout le temps dire encore, encore. Mais par rapport à ce qu'Hachem donne, il faut dire encore. Et c'est pour ça qu'on ajoute dans Birkat Hamazon, à la fin de Birkat Hamazon, il y a tous les Rachamans. Ils n'ont rien à voir avec le Birkat Hamazon. Mais comme on remercie Hachem pour tout ce qu'il a donné, alors du coup, on dit et encore. profite de ce moment-là. Donc là, à ce moment où Hachem vient de faire à la fois un miracle et qu'il a dit à Abraham qu'il le reconnaissait, etc., du coup, Abraham, il demande quelque chose. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande la chose suivante. Ribono shel olam, maître du monde. Galoui ve'yadua lefanecha, c'est clair pour toi. Bechaa she'amartali, que quand tu m'as dit, kach na et bincha et yechidcha, prends s'il te plaît ton fils, ton unique, quand tu m'as dit ça, aya belibi ma leashivcha, en moi, j'avais de quoi te répondre. Ayabelibi mal est mort. J'aurais pu te dire, Etmol, Amartani, ki beitzra, ki beitzra, ki kare le chazara. Hier, tu m'as dit que ta descendance, ce sera une partie de la descendance d'Yitzhak. C'est-à-dire Yaakov et pas Esav, c'est pour ça que c'est marqué beitzra et pas. Yitzhak. Et maintenant tu me dis, allez où? Cham Léola? Maintenant tu me dis de le tuer? De le sacrifier? J'aurais pu refuser, j'aurais pu dire, c'est incohérent ce que tu me demandes là. Ça n'a pas de sens. Et là, que Shem Shayali Malea Shifra. De même que j'aurais pu te répondre cela. Et j'ai maîtrisé mon Yetzer. C'était insupportable ce que tu me demandais là. Je t'ai rien répondu. Je me suis tu. J'étais là, devant toi, comme un sourd qui n'entend pas. Ou qui lève l'œil tarpive et comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Voilà, j'ai fait ça. Car, alors je demande, que Sheyu Banav shel Yitzhak, quand les descendants de Yitzhak, Baim l'idée Averot, quand les descendants d'Yitzhak vont faire des fautes, ou Maasim Raim, ils vont mal se conduire. Alors, tu rappelleras pour eux en leur faveur la Akedat Yitzhak, leur père. Ve amod mikiseh adin le kiseh rachamim. Et tu passeras à cause de cela du trône de la rigueur, en tant que roi qui juge avec rigueur. Le Kisei Rachamim, sur le trône de la tendresse. Vetitzvale Alehem Rachamim. Et tu t'empliras de tendresse à leur égard. Utrachem Alehem. Et tu feras acte de tendresse à leur égard. Vetahafoch Lahem Midata Din le Midata Rachamim. Et tu inverseras pour eux la Midata Din en une Midata de Rachamim. Et Matai, quand? Bachodesh Hashvi. Fameux septième mois. Le mois du jugement. Ce mois-là. C'est-à-dire que la Akedal s'est passée d'après ça à Rosh Hashanah. Donc il dit, voilà, il va y avoir un Rosh Hashanah, il va y avoir des Rosh Hashanah au cours des temps. Et les Bnei Israël vont faire des fautes, les Bnei Yitzhak, presque jamais les Bnei Israël sont appelés Bnei Yitzhak. On est toujours appelé Bnei Israël, Israël c'est le nom de Jacob, hein, celui d'Israël. On est appelé Bnei Abraham, Bnei Jacob, Bnei Israël, Yeshurun, des noms de Jacob. Bnei Yitzhak, c'est très rare. Même pas si. Il dit, donc, il demande ici un passe-droit. Il dit, Tu vas maintenant utiliser l'Akeda, le mérite de l'Akeda. Comment il fonctionne, je ne sais pas, mais enfin, on peut en parler. Mais voilà. Le mérite de l'Akeda, il fera que dans le juge, au lieu de juger, plus directement, là aussi, il passe d'un trône à l'autre. C'est-à-dire, c'est un acte de royauté. Il est toujours roi. Mais au lieu d'appliquer le dit, il va appliquer la tendresse. Il n'y a pas de place pour la tendresse dans un jugement. C'est ce qu'Abraham a demandé. C'est ça que je m'étais demandé, est-ce qu'Abraham parle ici du jugement de chacun? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est jugé individuellement et aussi collectivement. C'est marqué qu'on passe tous qui venaient marron. Tout le monde, on passe comme dans une espèce de couloir dans lequel on peut passer un seul à la fois. Et donc chacun est jugé. Comme quand on compte les animaux pour fabriquer le maaser, quand on veut établir la dîme des troupeaux, on le fait passer par un couloir où il peut passer que, a priori, un seul à la fois. On compte 1, 10, le dixième on le met de côté, ce sera, on appelle maaser. Un corban qu'on va amener en tant que Maaser Donc, c'est cette image-là qui est utilisée. Alors, est-ce que ça parle des individus? Auquel cas, c'est très étonnant, quoi. Ou bien, et en plus, on voit bien que c'est pas comme ça. On voit que, en tout cas, il y a des Rechaïm qui meurent. Tous les Rechaïm ne meurent pas, mais ça peut. Et donc, bon, alors, c'est un peu compliqué parce que est-ce que les Rechaïm en question qui meurent, si on dit qu'on parle à l'échelle individuelle, est-ce que ces Rechaïm, ces méchants-là, ils ont perdu le statut de Bnei Yitzhak? Est-ce qu'on a toujours Bnei Yitzhak? Est-ce que Bnei Yitzhak, c'est un problème biologique, génétique? Ou bien il y a de cela, mais il y a aussi une composante qui est spirituelle. Alors, il est bien clair que dans l'entrée, c'est bien de ça qu'il s'agit. Un guerre, il peut devenir Ben Israël, donc Bnei Yaakov aussi, Bnei Yitzhak aussi, un converti. Donc ce que je demande, est-ce que de la même manière qu'on peut entrer ou bien par. Ou bien biologiquement, par sa mère, ou bien on peut entrer spirituellement, est-ce qu'on peut aussi sortir, on sort aussi par la mère, en fait. C'est-à-dire si un homme épouse une Goya, alors l'enfant il est goy. Mais autrement, on ne peut pas sortir biologiquement. Un homme peut pas, un juif peut pas épouser une juive. Et son enfant ne sera pas juif, ce n'est pas possible. L'enfant, il pourra se convertir 100 000 fois, ça ne changera rien, il est juif. Par contre, si le père, si le bonhomme, il a un rapport avec une Goya, alors l'enfant sera l'enfant de la Goya, donc c'est l'enfant. Donc il va avoir un descendant biologique goy. Mais est-ce qu'on peut aussi perdre le statut de Bnei Israël? Spirituellement, comme on peut le gagner spirituellement, est-ce qu'on peut aussi le perdre spirituellement? Est-ce qu'il existe une situation dans laquelle un juif s'est disqualifié, et à ce moment-là, je pourrais comprendre qu'il n'est plus Bnei Yitzhak? Alors, juridiquement, ça n'existe pas. Je veux dire, même quelqu'un qui est Moumar, le Kol HaTorah Kula, il est encore juif, en fait. On ne le traite pas comme un juif, mais il est juif. Même un mouar, le Kol HaTorah Kula, qui donne des kiddushin à une femme, la femme, elle est mekoudechet. S'il était goy, elle ne serait pas mekoudechet.
Donc, vous voulez par rapport à.
Non, alors ça veut dire que ce qu'Abraham demande, c'est une chutzpah par rapport à ce que Hachem a proposé. N'est-ce pas? C'est ça la chutzpah.
Abraham
Il demande plus que ce qu'Hachem a
demande.
dit qu'il lui allait donner.
Mais
De quel droit?
est-ce que là, il
De quel
demande
droit
quoi?
est-ce qu'il demande plus dans la mesure où, d'une certaine manière, comme je vous ai dit, toute l'histoire de la Akedah, c'est à cause de ça, c'est par sa faute. C'est parce qu'il a fait cette fameuse alliance avec Abimelech.
Est-ce que vous avez dit que Abraham, il a demandé à Hachem de passer en trône de la Midatadine et c'est à ce moment-là, de là qu'on sait que c'est de ce jour-là que vient le jugement. C'est à
C'est
partir.
pas que c'est de là. Il a dit, quand est-ce que ça a eu lieu? Ben, le jour où Abraham, le jour où Hachem s'est engagé. Quand est-ce qu'Hachem s'est engagé? Mande la Akeda. C'est pour ça qu'il dit que le septième jour, le septième mois, c'est le mois du serment.
Mais est-ce que c'est avant la Akedah ou
Après
juste
la Akeda.
après la Akedah? À ce moment-là, il y a alliance entre les deux,
Il y a
entre
quoi?
Abraham et Hachem.
Pourquoi?
Après la Akedah, c'est à ce
Non,
moment-là
non,
que.
non, l'alliance, elle a lieu bien avant. L'alliance avec Abraham, avec Hachem, ou d'Hachem avec Abraham, elle a eu lieu avant l'alliance avec Abimelech.
Il y a la Akedah. Et à ce moment-là,
Et à ce
il y a
moment-là,
ces
il y a la
paroles.
prière d'Abraham. Il y a la Akedah. Il y a Hachem qui dit, c'est super ce que tu as fait. Et je te promets, hein? Et il y a la prière d'Abraham qui dit, qui prie et qui demande à Hachem plus que ce qu'Abraham, plus que ce qu'Hachem a dit, Nishbati, j'ai juré.
Sur quel mot peut-on le mira pour dire ça?
Pardon?
Sur quel mot dans la phrase se fonde l'hydrage pour dire, mais il y a une demande qui ne pousse pas de par d'où le tir, de quelle phrase l'hydrage pour ça?
Non. Le Midrash, il apprend ça parce qu'il dit, c'est la suite. C'est de dire que quand Hachem s'est engagé à quelque chose, alors Abraham a voulu, il s'est mis à prier, à supplier. Donc, a priori, il a prié et supplié. Et il a demandé plus que ce qu'Hachem venait de dire. Il aurait dû dire Amen, quoi, en quelque sorte. Hachem s'est engagé, il aurait dû dire Amen. Il ne dit pas Amen. Il demande autre chose, il demande plus.
Vous voyez dans les mots, c'est vrai que nous on dit ça, je ne dis pas, mais dans quel c'est parce qu'il n'y a pas Amen qu'on
Oui,
imagine qu'il a fait tout ça avant.
c'est ça. Il dit,
D'accord.
pourquoi Abraham s'est mis à prier d'après le Midrash? Le Midrash dit, c'est pas possible. Bon, le Midrash, il comprend qu'Abraham a prié parce que c'est surcompris après ce que Hachem a parlé. Et il entend que ce qu'Abraham, il pense que Abraham, il lui reste quand même sur l'estomac ce qu'Hachem lui a demandé. Il dit, OK, je te crains, etc., mais qu'est-ce que tu m'as fait là? L'épreuve que tu m'as faite, c'est une épreuve tout à fait insupportable et injustifiée d'une certaine manière.
Que lui demande de ne plus être rigoureux par la suite comme ça.
Il demande, ouais, il demande que puisque tu t'es engagé, que tu ne seras pas rigoureux complètement, puisque tu dis que quoi qu'il arrive, les Bnei Israël s'en sortiront. Normalement, on devrait être comme tous les peuples. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, on devrait disparaître. Parce que shalom. Or, Hachem dit, ce que tu as fait, c'est tellement énorme que vous ne disparaîtrez pas. Et Abraham dit, et Abraham, il demande, c'est pas seulement qu'on ne disparaîtra pas à la fin des temps. Mais je veux qu'on ne disparaisse pas dans l'histoire non plus. Et la disparition dans l'histoire ne serait pas une disparition définitive. Mais on connaît quand Hachem dit à Abraham, je vais les détruire, il n'a pas même si détruire veut dire je vais détruire le clan Israël, au point de commencer avec toi. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais les détruire et je vais commencer un nouveau clan d'Israël avec toi. Et c'est là-dessus qu'Hachem a dit, que Moshe Rabbeinu a dit, je suis pas candidat.
Ah, vous voulez dire que, en fait, parce qu'en fait, c'est étonnant qu'il demande à ce que, quand s'il lui dit, vous ne disparaîtrez pas, vous entendez à la fin des temps, on peut comprendre que de toute façon, s'ils n'ont pas disparu à la fin des temps, ils n'ont pas disparu entre
Oui,
eux.
d'accord, mais
Alors,
en
mais donc,
vérité, il faut
en fait, ils
comprendre.
auraient pu disparaître et revenir au.
Pas
Cette
disparaître, pas
descendance-là.
obligatoirement disparaître et revenir, mais disparaître, quasiment disparaître, et ça s'appelle disparaître, la preuve. C'est que quand Hachem a dit que je vais détruire le clan d'Israël, Hachem, il a fait ce qu'il a dit. Hachem ne peut pas ne pas faire ce qu'il a dit. Et on appelle détruire le clan d'Israël le fait de détruire la quasi-totalité des gens qui avaient plus de 20 ans, etc. Les jeunes, ils ont survécu. C'est ceux qui étaient trop jeunes à la sortie d'Égypte. Les femmes ont survécu, etc. Et ça s'appelle néanmoins, c'est le détruire. Ça veut dire qu'avec ces gens qui survivent, on aurait pu imaginer qu'il n'y a toujours pas de clan d'Israël. Puisqu'ils voulaient qu'on va faire comme ça. Et je vais commencer quelque chose de nouveau avec toi.
C'est là où vous avez dit que c'était le garant qui a fait un sursis. Mais avant que le garant soit là, qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là?
Il a, je m'a pardonné.
Oui,
Mais
s'il
à ce moment-là,
a
si
pardonné.
Hachem a pardonné le veau d'or, alors la question est de savoir pourquoi est-ce que, à quel titre dans l'histoire des Meraglim, il mérite de mourir.
Voilà.
Et donc, c'est parce que c'est à cause de ça, si vous voulez, que le Gaon dit, non, quand Hachem a proposé de détruire le clan d'Israël et qu'il ne l'a pas fait, c'est un sursis. De telle sorte que ça reste à faire, ça restait à faire et ça a été fait.
C'est-à-dire que jusqu'au chaos, on n'avait pas bien compris ce moment-là.
Si, j'en comprenais comme ça. Si le gars me dit autrement, c'est que lui, il a compris comme ça. Bon, il y a certes, bien entendu que tous les autres, même après le Gaon, il y a des gens qui ne pensent pas comme le Gaon, et certainement, ils ont un pshat. Moi, je donne le pshat du Gaon parce que je suis plus à l'aise avec ça. Donc, si vous voulez un autre pshat, changez de bétamina.
Non, non,
alors, cette histoire que les Bnei Israël vont. Abraham a demandé qu'ils ne disparaissent pas. Alors, il y a le Midrash continue sur la suite. Justement, la dernière chose, c'est l'histoire du bélier. Dans le passage que c'est écrit, Vaïssa Abraham et Ténav, on l'a lu, Abraham a levé les yeux, Vaïa, et il a vu. Vehine, et voici donc, Aïl Acher Nechaz Basfar Vekarnaf. Écoutez bien. Abraham a levé les yeux et il a vu, et voici un autre bélier, Aïl Acher Nechaz Basfar Vekarnaf. Il est en. Comment est-ce qu'on dit? Il est pris dans le four, dans les fourrés, par ses cornes. Il a dû vouloir se débattre et les fourrés ont tiré ses cornes. Il est bloqué par ses cornes. Aïl Acher. Ça veut dire un autre bélier. Il y avait, pour dire qu'il y a un autre bélier, ça veut dire qu'il y en avait un avant ou il y a un bélier avant? Vous avez entendu parler d'un bélier avant? Quoi? Je ne sais pas, mais c'est un agneau d'abord.
Oui.
C'est la même famille, vous avez raison, mais c'est pas ça. Il a frère, Sur place, il y avait un Haïl. Le Haïl en question, c'est Yitzhak. Une façon de, au lieu de dire que le Haïl représente Yitzhak, c'est comme si Yitzhak était du même bois que le bélier, n'est-ce pas? C'est ça la substitution possible. Parce que quelque part, alors, il va y avoir plusieurs explications. Va en donner une aujourd'hui. Si vous êtes sage, vous aurez les autres la semaine prochaine. Melamed, Shehera Akadosh Baruch Hu le Avraham Avinu, et à Haïl, ça vient nous enseigner que Akadosh Baruch Hu a montré à Avraham, notre ancêtre, le bélier. Nitash mechoresh ze venisbach bechoresh acher. Il a montré le bélier qui s'était coupé, c'est-à-dire qui s'était libéré d'un fourré, mais il s'est embourbé là, enfin embourbé, je sais pas comment on dit quand c'est, et s'est impliqué complètement dans un autre fourré. Donc, il a vu quelque chose qui se passe avec le bélier. Le bélier s'est à la fois libéré, puis ensuite il est retombé. Il s'est rebloqué. Le Midrash, il entend que quand on nous dit que le Haïl, il était pris dans les fourrés, on n'a rien à battre. Ouais. Bon, Avraham, il a vu qu'il y avait un bélier, il a pris le bélier, il l'a substitué. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Le Midrash, il dit, si la Torah nous raconte ça, elle veut nous dire quelque chose. OK? Alors, il va y avoir plusieurs explications, justement, de cette libération et ensuite réemprisonnement, en quelque sorte.
Ça, c'est le Midrash qui a sorti
Oui. Je vois que ça vous dérange. C'est le Midrash qui dit, oui, c'est le Midrash. C'est ça la Torah. Le Midrash, il dit ça parce qu'il faut bien rendre compte, dit le Midrash, de cette phrase que le bélier était pris dans. On n'en a rien à faire. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire que le bélier était pris dans les fourrés? On n'a pas dit non plus quelle corne était prise à droite et laquelle corne était à droite, à gauche. Alors, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem lui envoie un message à Abraham avec ça. Et il lui dit, car atidin banecha liot nechazin ba'avonot venisbachim betzarot sofan nigael bekarnav. Voilà, tes ancêtres, tes descendants, pardon, ça va arriver pour eux aussi. Ils vont être pris, coincés par les avonot. Ils vont être, à la suite de ça, ils vont tomber dans le fourré des tsarot, des ennuis. De Sofan, mais finalement, ils vont être libérés par les cornes, avec les cornes. Les cornes de ce bélier, les cornes du bélier, où est-ce qu'on voit ça? Ça, c'est l'histoire du clan d'Israël qu'il est en train de raconter. C'est écrit, Zecharia, dans le Navi, dans le prophète Zecharia, il écrit, Vashem Elohim, Bashofar Yitka. Donc, Hashem Elohim, c'est le nom complet. Hashem Elohim, c'est à la fois le tétragramme Elohim, c'est-à-dire la Midat Harachamim et la Midat Adin. Hashem Elohim. Bashofar Itka. C'est lui qui va sonner du shofar. Et cette sonnerie du shofar-là, c'est la sonnerie de la fin des temps. Le shofar Gadol, dans la prière, quand nous prions et demandons Tka Beshofar Gadol, c'est le 7. On demande à Hachem, sonne. C'est-à-dire, en fait, Nous, on y est pour rien. Nous, on a fait des bêtises. Et ces bêtises, elles nous ont passé. On s'est enferré dans. On s'est embrouillé dans ce genre de truc. Et du coup, on est tombé dans un autre fourré qui est les tsarot, la souffrance, en fait. Mais finalement, bon, finalement, il y aura. Le Navi, il annonce qu'Hachem nous sauvera. Il sauvera avec le chauffard Gadol. Pourquoi le chauffard est l'emblème de la grande libération, etc. Ça, on verra une fois. Ça, c'est une première lecture. Amar Rav Huna Bar Yitzhak, lui, il lit autrement. Melamed she'era Kadosh Baruch Hu l'Avraham et Ha'il nitash. Même explication. Shem a montré à Abraham ce fameux bélier qui était pris ici et pris là-bas. Alors, comment il l'explique? Il lui a dit, Amar Kadosh Baruch Hu l'Avraham, Kachem atidim banecha. Ça va arriver comme ça à tes descendants. Nechazim be'umot. Ils vont être pris par les peuples. Venizbachim betsarot. Ils vont tomber dans les tsarot. Là, il y a aussi les tsarot. Venimshachim mi malchut le malchut. Ils vont passer d'un royaume à l'autre. Ils vont passer de Babel aux Mèdes et aux Perses. Et les Mèdes et aux Perses au galout de Yavan, et du galout de Yavan au galout d'Édom. Le Sofan, mais finalement, l'Igaël, le Karmav chez l'Aïd. Et finalement, ils vont être sauvés par les cornes de du bélier. Où est-ce qu'on. Quel passou qu'il amène, lui? Lui dit Adodirtiv, le même navire. Le passou d'après, enfin, le passou 14 après le passou 9, quoi. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vachem Aleihem Yirae. Hachem se montrera sur eux, c'est-à-dire Hachem se manifestera clairement à travers les Bnei Israël. Viatsak Barak Chitso. Et sa lance, donc Hachem va lutter, ça va sortir comme un éclair. Ça veut dire. Quelque part, c'est à travers les Bnei Israël que il va y avoir la libération. C'est pas simplement les Bnei Israël sont libérés sans qu'ils ne fassent rien, simplement parce que Hachem sonne. Ici, c'est bien toujours Hachem qui va sonner, qui va les aider. Il va y avoir une lance. Il va y avoir, c'est des armes, n'est-ce pas? Ça va arriver de façon complètement impromptue. Complètement inattendu, etc., avec une force énorme, à travers les Bnei Israël. Et il y a une troisième lecture. Rabbi Abba, Abré de Rav Papi, Rabbi Yoshua de Sikhnin, au nom de Rabbi Lévi, Amar. Alors eux, ils lisent autrement. C'est comme ça. Kol Yemot HaShana, tous les jours de l'année, Israël oskim bemlachtan. Les Bnei Israël travaillent, sont occupés avec leur travail. Rosh Hashanah, notlin shofreyen, vetokin lifnei Akadosh Baruch Hu. Là, les Bnei Israël à Rosh Hashanah, oui, c'est comme si c'était un autre type de travail. Toute l'année, il y a un certain travail. À Rosh Hashanah, on ne travaille pas de la même manière, mais on va faire quelque chose. Le travail, en quelque sorte, de Rosh Hashanah, c'est quoi? On prend le chauffard et on sonne. C'est les Bnei Israël qui sonnent maintenant. C'est plus un chauffard sonné par Hachem. C'est pas non plus quelque chose qui sort des Bnei Israël, mais c'est Hachem qui se manifeste à travers les Bnei Israël. Ce sont les Bnei Israël qui agissent. Il sonne du shofar devant Hachem. Vehu omed mikisei din le kisei rachamim, mitmale alehem rachamim ematai, mitmale alehem rachamim. Mais ematai? Et quand? La chodesh hashvi'i. Donc, c'est ça. Voilà ce qu'ils disent. Le troisième, ils disent, c'est les Bnei Israël. Les Bnei Israël vont se. On ne parle plus du tout de la fin des temps. Les autres parlaient, Zecharia, ils parlent de la fin des temps. Mais ici, ils ne font même pas appel à une prophétie. D'où ils savent? Certains disent, d'où ils savent le Midrash. Bon? Eux, ils disent, le dernier, ils disent, peut-être que ce n'est pas la même chose. Abraham Avinu, il avait demandé que ce soit Hachem qui rappelle la Kedat Yitzhak, et que par ce biais-là, la Kedat Yitzhak, lui-même, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu rappelle, fait remonter à Kedat Yitzhak dans son fameux souvenir, dans ceux auxquels ça dit quelque chose, la bracha des Zifronot, elle est sur Akela Tisrak. Le Zohar Abrit. Souvenir de quoi? Du Brit. Mais le Brit, bon, c'est bien sûr que c'est l'alliance, le premier Brit, enfin c'est Brit Avraham, mais c'est le Brit qui a été. En fait, renforcé avec Yitzhak. Alors, eux, ils disent, non, les Bnei Israël vont sonner du shofar, et Akadosh Baruch Hu va réagir à ce shofar, et il va passer d'un trône à l'autre. Donc là, on voit que les Bnei Israël, par le Maaseh Mitzvah de Rosh Hashanah, parce qu'il sait plus quelque chose de la fin des temps. C'est le Maaseh Mitzvah. Toutes les années, on fait ça. Toutes les années. On dit même pas qu'on va rappeler à Kedat Yitzhak. Les Bnei Israël, ils vont seulement sonner le shofar. Que le shofar soit réminiscent de Kedat Yitzhak, tout ça, c'est vrai. C'est un bélier, le bélier, tout ce qu'on a raconté, ça, tout ça, c'est vrai. Mais dans la Mitzvah, on ne te demande pas de penser à tout ça. Il va y avoir un problème, savoir est-ce que dans Tkiyat Shofar, il y a un statut à part? Vous savez, la halakha, elle est que mitzvot lo tzrichot kavana. Qu'on peut s'acquitter des mitzvot sans kavana. Même si tu n'as pas la kavana, tu n'as pas l'intention, la Gemara, elle dit, si les gens prennent un bonhomme à Pessah, et il le remplit de matzah, il avale la matzah, et c'est la mitzvah de matzah. Il n'a pas la kavana de rien. Il n'a pas besoin de kavana. Il a mangé, effectivement, la matzah. On lui demande, alors, qu'est-ce qui se passe avec le. Et si maintenant, quelqu'un joue de la musique avec son shofar, à Rosh Hashanah, et il se trouve que dans sa musique, il y a justement Shvarim Troua et Shvarim Troua, il n'est pas Yotze. Pourquoi? On n'a pas besoin de Kavana pourtant. Alors, le Rambam, il dit qu'on a besoin de Kavana, donc il faut expliquer pourquoi, justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Kavana spéciale. Ici, on a l'impression qu'il sonne du shofar. On ne dit pas qu'ils sont mechaven, quoi que ce soit. C'est un du chauffard. Mais peut-être qu'il faut entendre ici ce lien Pourquoi on nous dit toute l'année, ils s'occupent, ils travaillent? À Rosh Hashanah, ils sont du chauffard. Qu'est-ce que le fait qu'ils travaillent toute l'année, ça nous dit sur l'histoire du chauffard? Ça dit rien du tout. Pourquoi on nous raconte ça? Pour nous dire peut-être que cette sonnerie du chauffard, il faut la comparer avec le travail qu'il fait toute l'année. Dans ton travail, tu as une certaine kavana de travailler, quoi. Tu veux le résultat de ton travail. Si tu veux moissonner, tu veux, voilà, tu veux avoir des épis, tu veux avoir le blé. Alors, que ça veut dire ici, quand on prend le chauffard, on le prend comme c'est mon travail. C'est le travail d'Ebné Israël, c'est de sonner à ce moment-là. Et s'il sonne à ce moment-là, alors peut-être que c'est comme une kavana. Kavana, c'est mon job. J'ai la kavana de sonner du chauffard de la même manière que j'ai la kavana quand je fais mon travail. C'est ça qu'on veut dire. On reviendra sur cette histoire de Marloquette qui a des questions que tout le monde pose sur le Rambam. Pourquoi le Rambam? Vous souvenez, je n'ai pas redit cette année, mais quand le Rambam amène la mitzvah de chauffard, il ramène la mitzvah de sonner du chauffard et il dit que le chauffard, il vient nous dire, réveillez-vous, etc. Et puis quand le Rambam, il commence à nous raconter des petites histoires dans les sefers de Halakha, quelque part, il est en train de dire que ça fait partie de la mitzvah, cette histoire de réveillez-vous. Moi, mes enfants, j'ai appris ça, réveillez-vous, quand les enfants, ils revenaient du jardin d'enfants. Moi, le chauffeur, je viens vous réveiller. C'est un Rambam. On reparlera ça la prochaine.
Pourquoi pour revenir au début on n'a pas eu la pourquoi ça s'appelle Yom Tovah? En tout, vous avez dit que c'était ça fait des sanglots, mais en même temps, maintenant vous avez dit que
Je n'ai pas dit que c'est. Je pense que ce qu'on apprend des sanglots, c'est on apprend cette idée de une sonnerie de chauffard, parce que la tkia aussi, c'est une sonnerie de chauffard. C'est bien, c'est une sonnerie de chauffard. Pourquoi tout à coup il faut qu'elle soit. On a un doute, mais le doute, il est quand même dans le fait qu'on a haché, en quelque sorte. Le son. Vous voyez, quand vous avez du son continu, du souffle continu, et que vous lâchez, c'est le commencement de la parole. Le son continu, ce n'est pas une parole. Mais le commencement de la parole, c'est d'être capable de hacher le son continu. Tu vas hacher, mais après tu vas décaler, etc. Tu vas fabriquer un A et un E. Okay. Donc, cette idée qu'on va passer à une troua, c'est pas la tria. Une troua, alors, on apprend dans les sanglots, on a appris là-bas qu'il y a des coupures comme ça. Le sanglot, c'est intéressant que quand on pleure pas de façon continue. Pourquoi quand on pleure comme ça? Pourquoi on pleure pas? Ça sent. Même ça, je ne suis pas capable de le faire, ça me fait des vibrations. On a appris simplement cette séquence de façon de hacher le souffle continu de
Voilà.
plusieurs manières, faisant des grands espaces et des petits espaces.
Donc ça, le sanglot, là, le fait de trouver la seule occurrence de trois, c'est le sanglot. Et de ce sanglot, on apprend
Que on apprend seulement le fait de concasser le, comment on dit ici, hein?
saccadé.
Ouais,
Et alors,
saccadé.
donc, ce rapport-là avec ce que je ne comprends pas, c'est quel est ce rapport-là avec Rosh Hashanah? C'est la parole, c'est quoi? C'est
Alors,
ça que tu as une
justement, on n'est
parole
pas dans
qui.
la parole encore. On n'est pas dans. Parce qu'il y a des Chiouins qui viennent après.
D'accord. Non, mais c'est bien. D'accord, ça me
On
parle.
commence par le son. Après, on verra que la Torah va demander aussi qu'on parle. Vous savez bien, dans la prière de Rosh Hashanah, avant de sonner pour les Malchouyot, avant de sonner pour les Zochronot et les Shofarot, on dit 10 psukim de Malchouyot, 10 psukim de Zochronot et 10 psukim de Shofarot. Donc là, c'est une parole, et pas n'importe quelle parole, parole du Tanakh. Des paroles issues de la Torah, du Nevi'im et des Ketuvim. C'est-à-dire la parole par excellence. Mais le shofar lui-même est un vecteur pour tout ça. Lui, il n'est pas parole. Mais il est. Peut-être qu'il faut justement. S'il était seulement continu, il ne pourrait pas rendre compte de la part. Transporter la parole. Il faut qu'il soit adéquat pour transporter la parole. Transporter la parole, ça veut dire qu'il faut qu'il soit coupé comme ça. Donc, il faut toujours. Toutes les choses, elles ne peuvent se faire que si on a un récipient, un récepteur qui est adéquat. Bon, on reviendra là-dessus.
Merci.